La fête de la miséricorde divine en ce deuxième dimanche de Pâques n'est pas vraiment une fête du pardon. Jésus ressuscité n'est pas apparu à ses disciples au soir de Pâques pour se réconcilier avec eux. La fête de la miséricorde n'est pas une fête de la confession, elle n'est pas la fête des pécheurs, pas plus que le 2 novembre n'est la fête des morts. Cette fête n'est pas une fête du pardon, sans quoi elle aurait pris place pendant le carême, idéalement au quatrième dimanche, le dimanche de la joie du pardon évidemment, pour préparer nos cœurs, pour nous préparer à Pâques et à la résurrection. Cette fête de la miséricorde n'est pas une fête du pardon, mais plutôt de la justice. Et en réalité, plus profondément, de l'équilibre des deux. L'harmonie du pardon et de la justice. Du pardon qui accepte, voire même du pardon qui oublie, et de la justice qui sanctionne, la justice qui punit. Oui, la fête de la miséricorde est une fête de justice, et c'est pourquoi elle prend place juste après Pâques, quand Jésus accomplit la promesse des béatitudes, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oui, il est le roi des martyrs. Venez, adorons-le. Sa mort, la mort de Jésus, a été un déni de justice. Avec son arrestation arbitraire, les faux témoins, l'absence de défense, le simulacre de procès. C'est parce que Jésus, le seul juste, le soleil de justice, dit l'Écriture, soleil de justice, il est la justice en personne, de même qu'il est la vérité. C'est parce qu'il est la justice en personne que ses adversaires ont cherché à le faire taire, l'ont condamné pour se protéger eux-mêmes. L'Évangile, à un moment, dit que, en entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. C'est d'eux qu'il parlait. Et ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Le rôle d'un prophète, c'est d'en appeler toujours à la justice. C'est de rappeler l'alliance avec Dieu, de rappeler les commandements et de nous rappeler à la justice, déjà en ce monde. Mais la résurrection de Jésus, c'est l'acte suprême de justice. Même Judas a regretté d'avoir livré à la mort un innocent. La résurrection est en soi une œuvre de justice et elle le sera pour nous. Notre résurrection sera la rencontre de celui que Dieu, nous l'entendions ainsi au dimanche dernier, au jour de Pâques, celui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Mes amis, ne craignez pas le jugement. Le jugement, il est pour ceux qui ne croient pas au Christ. Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Celui qui croit échappe au jugement, c'est cela la miséricorde divine, c'est l'amour infini du Père, cette indulgence toute paternelle pour ceux qui aiment et croient en son Fils. Lorsque Jésus, au soir de Pâques, remet le pouvoir de rémission des péchés, qu'il le remet à ses apôtres et à travers les apôtres dans l'Église aux prêtres, il précise, à qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Nous ne demandons pas pourquoi, mais à qui? À ceux qui ne croient pas à la résurrection, à ceux qui ne croient pas à l'amour infini de Dieu. La foi en la résurrection, c'est la condition de rémission des péchés. Celui qui croit échappe au jugement. Ces temps-ci, j'ai pratiqué la confession par téléphone, de façon exceptionnelle évidemment. En cette période inédite, j'ai remis leur péché par téléphone à des catholiques qui allaient mourir, qui allaient probablement entrer en réanimation avec, vu leur âge, un réel danger de mort. Évidemment qu'on ne se confesse pas par téléphone, pas plus qu'on ne va à la messe sur Internet, normalement. Le propre du sacrement, c'est de rendre le Christ présent.
J'ai simplement appliqué ce que l'Église prévoit dans ces situations extrêmes. La plus connue, c'est l'absolution collective. L'absolution collective, elle est accordée toujours sous réserve, sous condition que, si on survit, on aille réellement se confesser. Vous voyez, on est dans un avion, l'avion va s'écraser, hop, je prends le micro et je donne l'absolution collective à tous les passagers et l'équipage. Eh bien, si on en échappe, on doit aller se confesser dans les plus brefs délais pour recevoir l'absolution avec l'imposition des mains au nom du Christ miséricordieux. Les apôtres aimaient la justice puisqu'ils aimaient Dieu. Ils aimaient la justice. Nous aimons la justice si nous aimons Dieu. Mais ils étaient comme nous. Chacun en avait sa conception, sa propre vision, la certitude de savoir ce qu'est la justice. Pour Jacques et Jean, par exemple, la justice signifiait la récompense finale, siéger auprès du Christ dans la gloire. Pour d'autres, c'était le rétablissement de la royauté en Israël. C'est l'exemple de Simon les Zélotes, c'est son surnom. Il appartenait très probablement au mouvement des Zélotes, qui étaient des partisans de l'indépendance d'Israël par la force, par les armes. Chacun de nous a sa conception de la justice. Sinon, nous ne nous mettrions pas si souvent en colère. L'expression la plus forte, justement, du sentiment d'injustice. La colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu, dit la lettre de Saint Jacques. Ou plutôt, heureux les miséricordieux, car ils échapperont au jugement, à la colère qui vient, pour parler comme Jean-Baptiste. Chacun de nous, bref, a sa conception de la justice, et dans tous les cas, elle n'est pas celle de Dieu. Et donc, les apôtres, qui avaient le sens de la justice, voient Jésus revenir pour Thomas et lui accorder ce traitement de faveur tout à fait inouï. Avance ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté. En matière d'indulgence, de miséricorde, on ne peut pas faire mieux. En plus, l'offre incroyable est accompagnée d'une prière. Je t'en supplie, cesse d'être incrédule, sois croyant. Eh bien, aucun des apôtres présents n'a protesté. Et voyez le contraste avec leur attitude tout au long de l'Évangile. Chaque fois, ils se disputaient. Aucun n'a protesté. Le contraste avec notre différence devant tout ce qui nous semblait injuste. Le contraste avec l'attitude du frère aîné de la parabole du fils prodigue. Lorsqu'il se met en colère et refuse d'entrer. Non, c'est trop injuste. Aucun n'a protesté. Aucun des apôtres n'a protesté. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient reçu l'Esprit Saint ? Certainement. Parce qu'ils, ayant reçu l'Esprit Saint, ils avaient désormais à l'esprit les paraboles de Jésus, toutes ces paraboles qui appellent à la miséricorde, l'indulgence, le débiteur impitoyable, le pharisien publicain, les ouvriers de la dernière heure. Certainement aussi. Mais la raison peut-être pour laquelle ils n'ont pas protesté était qu'ils étaient eux-mêmes allés chercher Thomas. C'était à leur demande. Nous avons vu le Seigneur, il voulait partager cette joie avec lui, et c'est la définition de la justice. Ne pas garder pour soi ce qui nous est donné pour être partagé. Ici, ce qui nous est donné pour être annoncé, la résurrection. Nous avons vu le Seigneur, il est vivant, il est ressuscité. Mes amis, vous savez le défaut de notre conception le plus souvent de la justice, on va dire notre manque d'amour. Disons, de foi ou plutôt d'espérance. Et tout ça sous couvert, sous apparence de rationalité. Ce que nous appelons des décisions de justice sont très souvent des calculs de probabilité sur le risque que la personne recommence ou que son exemple soit suivi par d'autres. Nous devons apprendre de Dieu à harmoniser la miséricorde et la justice. Et je vous invite pour cela, surtout en ces temps que nous vivons, de reprendre la lettre sur l'espérance. La lettre sur l'espérance du pape Benoît XVI, Spe Salvi, sauvé en espérance, et sa deuxième partie sur les trois lieux d'apprentissage et d'exercice de l'espérance. La prière, la souffrance et le jugement. Benoît XVI disait, il écrit même, « Je suis convaincu que la question de la justice constitue l'argument essentiel, en tout cas l'argument le plus fort, en faveur de la foi dans la vie éternelle. » Pourquoi croyons-nous à la vie éternelle ? Parce que nous avons ce sens de la justice. Dieu est justice et crée la justice. C'est cela notre consolation, notre espérance. Mais dans la justice de Dieu, il y a aussi la grâce. C'est ce que nous découvrons en contemplant le Christ crucifié et ressuscité. La grâce n'exclut pas la justice. La grâce, la miséricorde ne change pas le tort en droit. Ce n'est pas une éponge qui efface tout, de sorte que tout ce qui s'est fait sur la terre finisse par avoir la même valeur. La miséricorde ne contredit pas la justice, elle en est le chemin. Et les apôtres ont fait venir Thomas parce qu'ils avaient besoin de lui pour retrouver cette unité, pour avancer ensemble. Les apôtres avaient besoin de Thomas comme Thomas avait besoin d'eux. C'est ce que dit cette lettre sur l'espérance. En tant que chrétien, nous ne devrions jamais nous demander seulement « comment puis-je être sauvé moi-même ?» Me sauver moi-même, nous devrions toujours nous demander « que puis-je faire pour que les autres soient sauvés ?» et que surgisse aussi pour eux l'étoile de l'espérance.
« De même que le Père m'a envoyé, dit Jésus, moi aussi je vous envoie. » Il nous envoie avec cette promesse. « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter. » et vivre, ceux qui ont fait le mal, pour ressusciter et être jugés. Oui, justice sera créée.